commence. La séance doit se terminer à 22h30, donc c'est pour ça qu'on peut difficilement attendre davantage. C'est donc la dernière soirée organisée par l'association ASPES pour l'année 2011. Le thème de ce soir, c'est système de santé européen, quelles différences pour quels impacts. Il n'existe pas donc de système de santé européen. Il y a plusieurs systèmes qui coexistent et qui sont liés à des modèles nationaux d'organisation. Ces modèles, pour certains d'entre eux, sont anciens, à la fin du 19e siècle, système de santé et de prise en charge des risques. Ces systèmes ont servi de modèle au niveau mondial et puis ont chacun leur spécificité, c'est ce que nous expliquerons les intervenants. Et on constate aujourd'hui que ces systèmes, certes, continuent à s'ignorer mutuellement, et semble débordé par des contraintes essentiellement à ce qu'on nous annonce financières et répondent de moins en moins à leurs objectifs initiaux, qu'on se demande même si cette évolution ne va pas aboutir à un renoncement à la solidarité collective vis-à-vis des risques individuels et que c'est par rapport à cette fragilité donc de systèmes qui pourtant semblent avoir fait leur preuve qu'on souhaitait ce soir pouvoir aborder ces différentes questions. Alors, nos deux intervenants, en premier, ce sera Emmanuel Ruche, qui est professeur de santé publique à l'Université de Tours et qui va nous présenter différents systèmes avec leurs particularités. Et puis Gilles Kerr, qui est un habitué des conférences de ASPES, qui est maître de conférence en économie à l'Université de Poitiers et qui sera le discutant. Et puis, dans un troisième temps, eh bien, il y aura un débat avec la salle qu'on souhaite, comme d'habitude, tout à fait dynamique et enrichissant. Je ne vais donc pas davantage monopoliser la parole et je vous la passe.
Merci beaucoup.
Alors, j'ai fait le choix de ne pas vous présenter de PowerPoint parce que c'est un choix un peu volontaire qui est lié au fait que quand on est sur la comparaison des systèmes de santé, c'est vrai qu'on peut aligner entre guillemets des tableaux de comparaison entre systèmes de santé, mais l'expérience que je peux en avoir à ma modeste mesure me fait penser que du coup on a tendance à en tirer des conclusions très hâtives sur ce qui pourrait expliquer ces différences entre systèmes de santé. Donc j'ai fait le choix plutôt de vous proposer des axes de réflexion qui émanent justement des différences que l'on peut constater entre les systèmes de santé. Et donc je n'ai pas pensé utile, bien qu'on pourra le reprendre dans la discussion et se focaliser sur certains pays plutôt que sur d'autres, je n'ai pas pensé utile de faire un catalogue des différents systèmes de santé les uns après les autres, parce que je pense que c'est assez fastidieux et d'un intérêt finalement dans le temps qui nous est imparti un petit peu rapide. J'ai reçu aujourd'hui, vous voyez, système de santé en transition de l'Observatoire européen des systèmes de santé et des politiques de santé, un tome qui concerne le système de santé anglais. Voilà, donc je ne me suis pas encore penché à l'intérieur, mais s'il faut faire la même chose pour 27 pays, je vais un peu vous déprimer un petit peu pour ce soir. Donc c'est pas, l'approche des fêtes, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors, je suis effectivement médecin de santé publique. J'exerce mes fonctions à Tours. J'ai approché les systèmes de santé des autres pays européens, en particulier au travers de la conduite d'un projet européen, financé à l'époque par la Direction générale numéro 5 de la Commission européenne, et qui avait pour objectif de formaliser un glossaire qui est d'ailleurs accessible sur la base de données de l'École des hautes études en santé publique. Un glossaire de 400 termes qui au départ était en quatre langues, le français, l'allemand, l'espagnol et l'anglais, et qui ensuite a été étendu aux 15 pays de l'époque. On n'en avait que 15 quand j'ai conduit ce projet. Et donc, ce n'était que 11 langues. Mais après, on s'est arrêté quand on a intégré les pays de l'Est, parce que c'était un petit peu compliqué. En tout cas, c'est une expérience qui, pour moi, a été riche d'enseignements, effectivement, puisque ça m'a permis de comprendre que je ne comprenais rien à ce que je pouvais lire dans les ouvrages, et qu'entre ce qu'on peut apprécier dans les tableaux, d'une part, et puis ce que l'on peut en tirer comme conclusion, il y a le vécu, effectivement, des professionnels et des acteurs de chaque pays, qui donnent du sens à tout ça, mais qui, du coup, parfois, quelque part, remettent en cause un petit peu cette juxtaposition de données entre différents pays. Alors, premièrement, la thématique, c'est le système de santé européen. Quelle différence pour quels impacts ? Alors ça, c'est outre le fait qu'il y a un S à quel système, donc il n'y a pas de système européen, comme vous l'avez dit. Les impacts, ça, c'est particulièrement compliqué. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'état de santé d'une population, elle n'est pas que liée au système de santé. Donc on sait bien que l'impact, l'état de santé d'une population, elle est liée, bien sûr, en partie, au système de santé. Elle est liée aussi aux comportements sociaux, tabac, alcool, conduite alimentaire, le fait que nous soyons dans une société de la voiture. Alors je sais bien que la mortalité diminue, ils l'ont encore répété ce soir, voilà, donc c'est très bien. On a aussi l'état de la santé d'une population, c'est aussi lié à des conditions environnementales, que ce soit environnement climatique ou géographique, mais aussi conditions de travail. Et puis, c'est aussi lié à des caractéristiques endogènes et génétiques des populations. Quand on donne une alimentation de type européenne à des Indiens Pinas d'Amazonie centrale, 80% d'entre eux développent un diabète. Alors, on n'est pas en Amazonie centrale, mais malgré tout, on sait qu'on a un certain nombre de caractéristiques, et on sait que nos amis du nord de l'Europe ont une incidence et une prévalence de cancer du sein plus importante que nous, sans qu'on puisse l'expliquer autrement que par des caractéristiques endogènes ou génétiques. Voilà, donc, puis je devrais rajouter un dernier point, c'est ce qu'on appelle les déterminants psychosociaux. C'est dans une population, ça renvoie quelque part à l'éducation, au niveau d'éducation atteint par cette population, et donc cette population, sa capacité pour chaque individu de cette population à gérer son stress, à avoir une estime de soi. Tout ceci intervient sur l'état de santé d'une population. Les déterminants, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, sont aussi importantes en termes de mortalité et de morbidité que le tabac et l'alcool réunis. Et nous savons que le tabac et l'alcool en France, c'est 100 000 décès sur les 500 000, enfin, imputation de 100 000 décès parmi les 500 000 morts chaque année en France. Donc, alors bien sûr, le système de santé a son impact sur l'état de santé d'une population. Dans les années 70, nos amis québécois nous disaient que le système de soins, plus que de santé d'ailleurs à l'époque, était responsable de 10% de l'amélioration de l'espérance de vie sur une certaine période, entre 1900 et 1970. Et les études qui sont parues dans les années 2000 ont indiqué que le système de santé est responsable, entre guillemets, où on peut lui imputer l'amélioration de l'espérance de vie à hauteur de 25%. Donc, ça veut dire que le reste est ailleurs. Donc, il faut garder ça à l'esprit, parce que du coup, quand on nous demande effectivement quel est l'impact du système de santé sur l'état de santé d'une population, il y a un impact. Il est parfois difficile de déterminer la part de cet impact parmi d'autres facteurs qui interviennent. Voilà un petit peu pour ce cadrage. Alors, si je vais sur les systèmes de santé, peut-être qu'on peut, dans un premier temps, faire plusieurs tableaux. Donc, tableau numéro 1, ou sujet numéro 1, comme vous voulez. Tableau numéro 1, on va commencer par le nerf de la guerre. Allez, donc je vous propose une petite réflexion autour, effectivement, du financement des systèmes de santé français et des différents systèmes de santé étrangers. Alors, et européens. Alors, il y a une première constatation que vous connaissez, que l'on retrouve classiquement, hein, qui porte sur le niveau de financement que chaque pays consacre, semble-t-il, au système de santé. Donc, on a des façons de mesurer les dépenses de santé, hein, qui sont d'une certaine façon relativement standardisées. Et vous savez qu'on a l'habitude, selon la façon dont on compte, de considérer qu'en France, la part du produit intérieur brut consacrée au système de santé, selon la façon dont on compte, est aux alentours de 10 à 12 à 11% du produit intérieur brut, plutôt 11% dans les dernières données chiffrées. Quand on regarde les autres pays de l'Union européenne, ça varie un petit peu d'une année sur l'autre, hein, ce qui interroge un peu la robustesse de ces mesures en même temps. Avec 11% du produit intérieur brut, on est plutôt dans le peloton de tête. À côté des Pays-Bas qui, de temps en temps, nous dépassent un petit peu. Hein. Ça, c'est un phénomène récent. À côté de la Suisse qui nous dépasse assez souvent aussi. Hein. Et puis, à côté, on a un peloton assez homogène, avec l'Allemagne qui n'est pas très loin, mais peut-être que le discutant pourra redonner des chiffres parce qu'il varie toujours un petit peu d'une année sur l'autre. Donc l'Allemagne, les pays du Nord, un peu, si mes souvenirs sont bons, la Suède qui ne doit pas être loin non plus, et puis quelques pays qui sont un petit peu plus loin, aux alentours de 9% du produit intérieur brut, donc un peu plus bas que nous, comme l'Angleterre, hein, qui est connue pour avoir une part du produit intérieur brut consacrée au système de santé un peu inférieure. Voilà, alors bien sûr, également un peu l'Italie, je crois, ou l'Espagne, les pays du Sud, quelques pays du Sud sont un petit peu inférieurs. Mais donc, ça veut simplement dire qu'il y a une part de financement qui varie un petit peu d'un pays à un autre. On est dans des pays développés, hein. Donc, je ne vais pas comparer, bien sûr, les 3 000 euros par habitant et par an dépensés en France, en moyenne. Et j'espère qu'aucun d'entre nous ne dépensons 3 000 euros en moyenne par habitant et par an. C'est mauvais signe, en général, quand même, de dépenser beaucoup pour sa santé. Hein. Je ne vais pas, bien sûr, le comparer au 1 euro par habitant et par an du Bangladesh. Voilà, nous dépensons 3 000 fois plus, certainement que nous le valons, certainement. Voilà, donc ça interroge sur des inégalités extrêmes sur la planète. On retrouve bien sûr des inégalités au sein de nos pays, hein, dans ce domaine. Donc on a quand même au sein de la communauté européenne, et alors, j'ai pas cité les pays de l'Est parce c'est des pays qui sont un petit peu sur lesquels les données me paraissent un peu moins fiables globalement et un peu plus récentes, sans doute plutôt un peu plus bas que la France, mais donc on est dans le peloton de tête, hein, ça c'est clair, mais en même temps, est-ce que ça a un sens si on ne regarde pas les indicateurs de santé? Donc il faut mettre en parallèle, bien sûr, de cet effort, je dirais, national, hein, les indicateurs de santé qui existent. Donc première question, quelle est la part de la richesse nationale, si on veut faire court et un peu caricatural, hein, que la collectivité accepte de consacrer au système de santé. Pourquoi les Anglais sont un peu en dessous? Pourquoi les Pays-Bas sont un peu au-dessus? Et pourquoi nous, on est quand même bien en tête? Alors, on a un autre pays qui est assez bas, qui a d'excellents indicateurs de santé, c'est le Japon. Mais c'est un peu plus loin, c'est pas dans l'Europe encore. Hein. Et puis, bien sûr, on a un pays qui bat toute catégorie, mais qui n'est pas en Europe, et qui sont les États-Unis, avec 17% du produit intérieur brut consacré à leurs dépenses de santé, ce qui ne va pas, bien sûr, avec forcément des indicateurs de santé très bons. Donc tout ceci, vous le savez, mais ça peut être une première interrogation. En tout cas, c'est une interrogation que les économistes au niveau de la macroéconomie nous renvoient fréquemment, parce qu'ils s'interrogent quelque part sur les rendements marginaux décroissants. En d'autres termes, quand je rajoute 1 euro par habitant et par an dans le système de santé, est-ce que finalement j'observe un impact? Je pense que je vais avoir énormément de mal à voir un impact. Donc mes étudiants en médecine, quand je les ai face à moi, et je leur dis, ben, certes, voilà, on peut comprendre que les médecins demandent 1 euro de plus pour leur consultation. 23 euros, c'est peut-être pas très cher payé pour un médecin généraliste. J'adhère tout à fait à ça. Mais en même temps, voilà, quand on rajoutera 1 euro, ça ne changera pas les indicateurs de santé de la population française. Les millions qui seront rajoutés ne changeront pas les indicateurs de santé, en tout cas pas immédiatement. Par contre, si je rajoute 1 euro par habitant et par an au Bangladesh, je modifie totalement les indicateurs de santé. Donc ça, c'est sûr, sans commune mesure. Donc effectivement, pour un économiste, on voit mieux ce qui se passe quand on rajoute 1 euro à 1 euro existant, mais quand on rajoute 1 euro à 3 000, on ne voit pas grand-chose. Donc ça, c'est voilà, premier tableau sur lequel on peut éventuellement revenir tout à l'heure. Deuxième tableau, qui m'interpelle un petit peu parce que moi, je suis arrivé en région Tourangelle en 2003, et comme je suis le seul représentant de mon espèce en région centre, une espèce non pas en disparition, enfin j'espère, hein, mais à protéger parce qu'une espèce rare. Voilà, donc j'ai été, comme en étant le seul enseignant de santé publique, en tant que professeur en tout cas, sur ma section universitaire, j'ai été très sollicité, donc je me suis retrouvé dans le cadre du bureau de la Conférence régionale de santé et de l'autonomie, dans le cadre de la Conférence nationale de santé, dans le cadre de la Conférence des droits des usagers. Donc, je suis un cumulard, hein, ce qui n'est jamais très bon signe. Ce n'est pas un signe de santé, en tout cas de démocratie. Interrogation, dans notre pays, nous avons fait le choix en France, ce que les autres pays n'ont pas forcément fait, d'un système de santé déconcentré, c'est-à-dire que l'État considère que la santé, c'est une prérogative qui lui est propre au niveau national. Il le déconcentre parce qu'il pense qu'il faut décliner cette politique de santé proche du terrain, mais par des services, qui, si ce n'est pas tout à fait l'État, c'est des agences régionales de santé, sont quand même, le directeur général est quand même nommé en conseil des ministres par le Premier ministre, hein, si mes souvenirs sont bons. Et donc on est dans une déconcentration, on aurait pu faire le choix d'une décentralisation. Une décentralisation, ça aurait été de confier des politiques de santé à un niveau régional, puisque c'est la région qui est plutôt, semble pertinente, ça peut se discuter, hein, mais qui en France est le périmètre géographique à qui l'on confie aujourd'hui les politiques de santé, mais sous un angle de déconcentration. Donc on a d'autres pays en Europe qui ont fait des choix aussi très étatiques, entre guillemets. On a National Health Service en Angleterre, on a du côté italien aussi une nationalisation du système de santé voici déjà quelques années. Mais on a d'autres pays qui ont fait le choix plutôt d'une décentralisation. On peut citer la Suisse, on peut citer en partie l'Allemagne, on peut citer pour une part également l'Espagne, qui ont fait un choix un petit peu différent. D'ailleurs, ce choix, dans mes souvenirs, hein, je me rappelle le rapport pour la santé en l'an 2000 ou 2010, je ne sais pas, qui était paru début des années 90, avec M. Raymond Soubi, qui en était le coordonnateur, je crois, qui posait la question de savoir s'il fallait déconcentrer ou décentraliser en France les politiques de santé. La réponse est venue d'une certaine façon, pour moi en tout cas, je l'ai vu au travers des ordonnances de M. Juppé en 1996, avec la création des ARH, qui ont donc été pour moi le choix qui a été fait de déconcentrer plutôt que de décentraliser. Alors, quel impact, j'essaie de chaque fois de me raccrocher sur ce fameux impact sur... pour la population, pour nous, hein, de cette déconcentration ou décentralisation. L'impact que j'y vois, c'est peut-être que, par exemple, si je prends la France, on a une agence régionale de santé qui porte des politiques de santé, qui écrit aujourd'hui, d'ailleurs, je pense dans votre région comme dans la mienne, le plan régional de santé avec les schémas de prévention, d'organisation des soins et puis le schéma médico-social. Donc, on est en train d'écrire ce qui va se décliner dans les 5 prochaines années dans chacune de nos régions, dans le cadre bien sûr des plans nationaux de santé. Le dernier répertoire en noté, alors ça dépend comment on compte, mais entre 25 et 50 plans nationaux de santé, depuis le plan Alzheimer, plan santé mentale, le plan j'en passe et je ne vais pas faire la liste. Et puis donc, une agence régionale de santé qui met en œuvre, qui écrit ces schémas et qui les soumet pour avis à la conférence régionale de santé et l'autonomie. Organe, alors quand je dis ça à mes collègues hospitaliers, ils me rient au nez, mais organe de démocratie sanitaire. Voilà, je lâche le mot. Hein? Organe de démocratie sanitaire, donc dans cette conférence régionale de santé et de l'autonomie, on retrouve, alors la composition est fixée par décret, on retrouve des acteurs d'ordre différents, des représentants du côté des assurances, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des professionnels des établissements de santé, du Conseil économique et social, etc. Voilà, une sorte d'organe dit représentatif ou en partie représentatif de la population, si ce n'est que les membres sont quand même nommés par le directeur général de l'ARS. Mais bon, voilà, c'est ce qui se rapproche le plus, effectivement, d'un organe de démocratie sanitaire et qui donne un avis, mais qui n'est qu'un avis, et qui ne s'impose pas, bien sûr, au directeur général de l'Agence régionale de santé. Donc, le point sur lequel j'attire votre attention dans ce choix de déconcentration qui reste dans les mains de l'État, hein, je ne sais plus qui, fin du 19e siècle, disait que la déconcentration, c'est le même marteau qui tape, simplement on a raccourci le manche, mais ça c'est la vision négative, hein, bien sûr, de la déconcentration, c'est bien sûr aussi un élément positif, mais ce n'est pas la décentralisation. Voilà. Donc la légitimité, elle est un peu différente entre une décentralisation et une déconcentration. Hein. Déconcentration, c'est une légitimité qui passe par l'État. La décentralisation, ce sera derrière des instances et une légitimité qui passera par un suffrage universel, hein, avec des personnes qui sont élues au suffrage universel dans le cadre de ces collectivités territoriales et qui font ensuite vivre, hein, c'est ce qu'on peut observer dans les autres pays, des conférences et peut-être des choses un petit peu différentes de ce que l'on voit, en tout cas une implication de la population qui est sans doute différente de celle que l'on peut observer en France et dans nos régions. Voilà. Donc, deuxième interrogation, des pays ont fait les choix de la décentralisation, d'autres pays ont fait le choix de la déconcentration. L'impact, il est certainement dans l'implication, je pense, d'un certain nombre de représentants des populations, des usagers, et de la possibilité d'avoir une politique locale vis-à-vis d'injonctions nationales. Parce que je me pose souvent la question, moi, en France, de savoir finalement quelle est la marge de manœuvre régionale que nous avons par rapport à un cadre qui reste quand même très national. Donc on se bat pour intégrer des aspects locaux, régionaux. Hein, mais voilà. Alors, je vais un peu vite, hein, c'est sûr, mais... on voit bien que les instances dans les autres pays qui sont décentralisées, hein, sont des instances qui ont un poids qui n'est pas un poids simplement d'avis, hein, dans les politiques de santé. Et puis on voit bien que la marge de manœuvre des politiques locales régionales en Espagne, etc., est différente, ou dans les cantons suisses, c'est différente que celle que nous on a. Même s'il y a un cadre qui peut être fédéral par ailleurs. Voilà, deuxième tableau, ou deuxième interrogation ou enjeu. Troisième enjeu ou tableau que je vous propose, c'est le panier de biens et de services pris en charge collectivement. Alors, c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de représentants peut-être de l'assurance maladie ou de la protection sociale dans cette salle. Alors, du coup, il y a un enjeu que j'ai gardé là sur l'assurance maladie et la protection sociale. Mais je vais peut-être plutôt l'aborder par le biais du panier de biens et de services pris en charge collectivement par la société pour, au travers du système de santé, hein, et pour améliorer l'état de santé de la population. Donc on voit bien que la construction de ce panier de biens et de services, en économie, vous me contredirez ou pas, je ne sais pas où vous me conforterez, un bien pour moi c'est quand on le consomme, ça se détruit. Un médicament, je le consomme, ça se détruit. Une prothèse de hanche, de genou, un pacemaker, je l'implante sur un individu, je ne le réutilise pas, donc je considère que c'est détruit ensuite. Hein, ça, c'est des biens. Les services, c'est quand on le consomme, ça ne se détruit pas. Donc les soins, quelque part, pour moi, c'est un peu l'exemple du service, au sens acte intellectuel, hein, quelque part. Donc, quand je consomme mon médecin, je ne le détruis pas. A priori, sauf, ou alors c'est du cannibalisme, mais c'est autre chose. Donc, la problématique du panier de biens et de services, il est quand même très différent d'un pays à un autre. C'est-à-dire que ce qui est pris en charge d'un pays à un autre en termes de panier de biens et de services intégrés dans le système de santé est assez différent. Alors, il est assez différent pour de multiples raisons. C'est des constructions historiques et culturelles, hein, et organisationnelles. Donc, c'est toujours difficile de démêler le pour et le contre. Les médicaments sont un bon exemple de cet aspect de panier de biens et de services pris en charge ou pas. Il y a quelques années, il y a eu une enquête de l'Institut, alors ce qu'on appelait à l'époque le CREDES, qui est devenu l'IRDES depuis, l'Institut Recherche, Documentation et Économie de la Santé, qui comparait quelques classes de médicaments dans la consommation dans les différents pays européens, notamment, je me rappelle, entre l'Angleterre, la France et l'Allemagne. C'était le début des années 2000. Si je prends notamment, il y avait ce qu'on appellerait aujourd'hui les vasodilatateurs. Hein. Ces produits qui sont utilisés et prescrits pour un certain nombre de pathologies ou de symptômes, par exemple veineux, de type varice ou de type. Voilà, un type d'exemple. Donc, pathologie très fréquente, hein, et très fréquente, encore plus fréquente en Angleterre qu'en France, hein, si je prends en termes de morbidité pour ce type de pathologie et de symptômes. Je me rappelle qu'il y avait une vingtaine de spécialités remboursées en France sur cette catégorie et de classes de médicaments. Il y en avait une dizaine en Allemagne et il y en avait trois ou quatre en Angleterre. Le coût moyen, alors c'était à l'époque, c'était sur les dernières données des années 90. Il y avait un rapport de 1 à 10 sur les dépenses du système de santé sur cette classe de vasodilatateurs. Donc par exemple, si en France on dépensait 1000 euros hein, ou 1000 francs, en Angleterre on dépensait 100 francs sur cette classe de vasodilatateurs. Alors qu'est-ce qui peut expliquer de telles différences alors qu'ils sont bien plus concernés hein, par cette pathologie, encore plus que nous. C'est une pathologie fréquente. Mais... Donc, est-ce que... Alors, est-ce que c'est la population qui le demande ? Est-ce que c'est les professionnels de santé qui ont l'habitude d'utiliser ces médicaments ? Ça, c'est pour la prescription, mais pas forcément pour la prise en charge, au sens collectif, hein, le panier de biens et de services pris en charge. Donc, du coup, après, il y a le choix qui a été fait en France d'assurer la couverture assurance maladie et le remboursement de ces médicaments à l'époque sur le territoire national. Par contre, à l'époque, il y avait des médicaments qui n'étaient pas du tout pris en charge chez nous et qui étaient pris en charge en Angleterre. Je pense, par exemple, à ces produits qui sont utiles dans les politiques de lutte contre le tabagisme, hein, patch, nicotine, etc., ou des produits dans les troubles de l'érection pour nous les hommes, pris en charge par en Angleterre, mais finalement très peu et très mal chez nous en France. Alors après, on peut aussi s'interroger, donc est-ce que c'est la pression des patients, pression des professionnels, lobby industriel? Bon, on a plein d'exemples récents sur quelques affaires autour de ces prises en charge. Peut-être aussi s'interroger sur l'efficacité, bien sûr, de ces thérapeutiques. Alors, j'ai récemment été dans un jury de thèse de médecine et on évoquait le traitement révolutionnaire des syndromes myélodysplasiques et de certains lymphomes. Alors, le traitement révolutionnaire, c'est une cure de chimiothérapie. C'est donc, ça concerne des patients plutôt de 70 ans. En moyenne, des patients ou des patientes. Et donc, le nouveau traitement, c'est un anticancéreux, chimiothérapie classique, 5-alpha-azacitidine, je ne me rappelle plus bien, mais quelque chose comme ça, on va oublier, ça n'a pas d'importance. Une molécule découverte en 1940, mise en œuvre en cancérologie en 1960, mais révolutionnaire aujourd'hui pour les lymphomes et les syndromes myélodysplasiques. Donc c'est une nouvelle arme utilisée dans cette thérapeutique-là, dans ce problème de pathologie-là. Des cures de chimiothérapie, 5 cures, enfin 5 jours, une semaine. Hein. Sur une année, on peut aller jusqu'à 10 cures. Hein. La cure de 5 jours est à 5000 euros chimiothérapie. Vous multipliez donc par 10, si vous en faites 10. Et vous rajoutez, bien sûr, c'est en hospitalisation, donc les coûts d'hospitalisation qui vont avec. Donc allez, à la louche, 100 000 euros. 100 000 euros pour un impact, une médiane de survie. Je serai le patient, hein, si j'ai mon lymphome et ma syndrome myélodysplasique. Je veux bien sûr cette thérapeutique, certainement. Enfin, je veux un peu en bénéficier. La médiane de survie, 9 mois. Hein, la moitié des personnes vivent un peu plus que 9 mois et la moitié un peu moins que 9 mois. La médiane est à 9 mois. Si on ne fait rien, c'est à 3 mois. Donc, quelque part, j'aurais tendance à dire le gain, hein, c'est de 6 mois. 6 mois en état de santé, pas forcément optimal, mais 6 mois quand même. Et donc, quelle valeur peut-on donner à 6 mois? C'est inestimable, hein, d'une certaine façon, peut-être. Remboursé partout en Europe, sauf, pour ça que je l'aborde, sauf dans un pays, en Angleterre. Donc j'ai demandé à l'impétrante, la future médecin, mais pourquoi en Angleterre ils n'ont pas pris en charge cette chimiothérapie? La raison, c'est qu'ils ont estimé que cet argent devait être mis dans des actions qui étaient plus efficaces. Alors en aparté, moi qui suis médecin de santé publique, donc j'aime bien la prévention. J'aime bien le soin aussi, hein. Je n'ai rien contre mes collègues, bien sûr, du soin. Je suis d'ailleurs plein d'admiration pour eux, pour tout ce qu'ils font. 1000 euros mis dans la prévention du tabagisme, qui a tendance à réaugmenter, vous avez remarqué un petit peu en France ces derniers temps. Ça permet de gagner, chaque fois que je mets 1000 euros dans la prévention du tabagisme, surtout vers les jeunes bien sûr, hein, je gagne une année de vie en bonne santé. Alors c'est vrai que ce n'est pas une année immédiate, c'est dans le futur cette année, hein. Mais j'ai intégré en termes d'économie, c'est ce qu'on appelle le discount, la préférence pour le présent vis-à-vis du passé, du futur plus exactement. Donc on a des mécanismes qui permettent en économie d'introduire cette notion de distance. Donc c'est 1000 euros par année de vie sauvée en bonne santé d'aujourd'hui en termes économiques. Voilà. Donc 1000 euros d'un côté, une année, 100 000 euros, 6 mois. Mais je ne trouve pas d'argent pour la prévention du tabagisme en France. Mais par contre, bien sûr, je trouve l'argent pour le traitement du syndrome myélodysplasique. Bon, c'est un peu mon désespoir, donc je m'épanche auprès de vous. Mais donc, il y a des pays, comme l'Angleterre, qui peuvent faire des choix collectifs et dire, ben non, ce ne sera pas pris en charge. Alors, bien sûr, nous, on le fait aussi. Hein. On le fait aussi, on a déremboursé des médicaments, on a cours de ces dernières années. Hein. Mais sur la chimiothérapie, je ne vois pas beaucoup de déremboursements et je ne vois pas beaucoup de limites à ce que l'on prend en charge dans ce cadre-là. Alors c'est vrai que c'est des décisions difficiles et qu'on ne peut pas demander à un patient de prendre cette décision et on ne peut pas demander non plus isolément à un professionnel de santé de dire non, je ne vous prescrirai pas ce traitement. Je pense que c'est des décisions qui doivent être collectivement assumées. Voilà, donc réflexion autour de ce panier de biens et de services hein, qui est à prendre en charge ou pas. Et il y a une certaine disparité d'un pays à un autre autour de ce panier de biens et de services. Le médicament est le meilleur exemple, le plus facile, mais il y a plein d'autres thérapeutiques. Je pourrais prendre par exemple la contraception chez l'homme, la vasectomie. Certains pays nordiques, notamment, prennent en charge et remboursent la vasectomie comme outil de contraception, entre guillemets. En France, je ne sais pas si ça a changé récemment, mais à ma connaissance, ce n'est toujours pas pris en charge. Mais bien sûr, on prendra en charge les pilules de dernière génération. Hein, ça ne pose pas de souci. La Xème pilule de dernière génération. Voilà, donc
plein d'éléments comme ça sur lesquels on peut s'interroger. Quatrième tableau. Je m'arrêterai peut-être à 5, il y en a plein d'autres, on pourrait aller à l'infini, hein, mais c'est un choix, et j'ai bien conscience que c'est un choix tout à fait très personnel. Financement des professionnels de santé.
Bon, ça fait 20 ans qu'on pleure, donc on va continuer à pleurer.
Non, ça change quand même, il y a des choses qui changent, l'espoir est au bout du tunnel, la lumière brille. Voilà, donc on sait bien que nous sommes sur un financement en France qui est plutôt un financement, pour les professionnels de santé, plutôt à l'acte, historiquement. Donc chaque fois que je réalise un acte, j'ai un financement. Ça tombe bien, j'ai la sécurité sociale et l'assurance maladie, plus les assurances complémentaires pour le financer derrière. J'ai, pour les hôpitaux, les établissements de santé, la tarification à l'activité. Alors, ce n'est pas un financement à l'acte, mais c'est une sorte de forfait, un type de prise en charge. La logique est quand même, je fais l'activité, j'envoie la facture. C'est la grande différence avec la prévention. La prévention, on me définit une enveloppe et ensuite je me débrouille avec. Et c'est beaucoup plus facile de maîtriser une enveloppe, a priori, que de maîtriser des activités, des dépenses a posteriori. Mais bon, c'est un aparté. Donc, financement des professionnels à l'acte, ça c'est notre caractéristique un peu franco-française, peut-être à mettre en lien avec notre attachement à la profession, aux professions de santé libérales, entre guillemets. J'ai un mauvais souvenir, un souvenir à juste raison, mon interlocuteur anglais m'avait remis sur le droit chemin, puisque là, quand j'étais allé à la fin des années 90, quelques mois en Angleterre, à un moment, je n'avais pas pu m'empêcher, imbu de mes connaissances acquises sur les bancs de la faculté de médecine, de leur dire qu'au general practitioner, que c'était des fonctionnaires anglais. Que n'avais-je pas dit là ? Donc, ils m'avaient bien sûr répondu tout de suite qu'eux n'étaient pas du tout fonctionnaires anglais, puisque chaque general practitioner anglais avait un contrat individuel signé par chaque médecin, et les autres professionnels de santé aussi, anglais, avec le National Health System, et donc que c'était un engagement personnel. Mais que par contre, en France, au travers de la Convention, il n'y avait pas d'engagement personnel, et donc c'était bien en France que se trouvait le fonctionnariat des médecins. Bon, ça permet toujours de réfléchir, d'avoir des allers-retours. Alors certainement, c'est des raccourcis. Hein. Et puis, ça renvoyait à ma représentation naïve du fonctionnaire. Je suis un fonctionnaire, hein, puisque je suis payé par l'Éducation nationale. Mais voilà, donc on est un retour de bâton salutaire. Donc un financement à l'acte, et nous savons tous, les Américains le clament haut et fort, en tout cas les économistes américains, les financements à l'acte sont inflationnistes sur les dépenses de santé, des systèmes de santé. Donc l'impact d'un financement à l'acte est bien sûr... Peut-être, en tout cas, inflationniste. Alors, ce financement à l'acte, il a bien sûr la caractéristique de privilégier, entre guillemets, un certain nombre d'actes qui sont mieux valorisés que d'autres. Donc, les actes chirurgicaux, actes techniques plus qu'actes intellectuels, et je reprends ma casquette de santé publique, la prévention passe un petit peu à l'as dans tout ça. Donc, si vous allez à l'hôpital et que vous êtes hospitalisé, pour une prothèse de hanche, quel incitatif l'hôpital a à vous proposer de vous interroger sur votre tabagisme, alcoolisme, quel intérêt elle a à chercher des éléments de prévention, puisque tout ceci n'est pas financé dans l'acte de prise en charge de la prothèse de hanche. Et bien sûr, ça ne fait pas partie de la prise en charge. Donc, ça, c'est pour les hôpitaux et pour nos collègues professionnels de santé. Qu'est-ce qui va les impliquer, si ce n'est leur bonne volonté, hein, ce qui est bien sûr un élément très important, mais qu'est-ce qui va les inciter à aller un peu au-delà de l'acte technique, hein, ou de la multiplication des actes. Donc, il y a d'autres pays qui ont fait d'autres choix en termes de financement, bien sûr, des professionnels de santé. L'exemple le plus caractéristique est bien sûr, là encore, nos amis anglais. Je ne les prends pas comme exemple, hein, c'est simplement... ils ont développé d'autres modalités, et vous en avez tous entendu parler historiquement, le financement par capitation qu'ils avaient développé il y a bien longtemps, hein, dans les années 80. Donc le système de capitation qui était que chaque généraliste devait s'occuper d'un ensemble d'individus, donc la population adhérait au médecin généraliste, un general practitioner, et ce médecin généraliste recevait un financement en partie lié au nombre de personnes qui adhéraient à ce médecin, quel que soit le nombre d'actes réalisés. Alors il y avait quand même des pondérations, hein, et puis ils ont développé, comme nous le faisons maintenant récemment avec les nouvelles modalités de financement des professionnels de santé en France, des financements par objectif, ce que nous avons repris récemment, des financements par objectif. Donc pour ces médecins généralistes, si un certain nombre d'entre eux atteignaient, pour les patients qu'ils avaient en charge, ou pour la population d'ailleurs, puisqu'il ne s'agit pas forcément de patients, mais de population prise en charge, donc si sur leurs 3000 personnes qu'ils doivent suivre, ils atteignaient 85% de couverture vaccinale sur les vaccinations de base, ils avaient un supplément de rémunération pour leur prise, pour, en termes de revenus. Donc des éléments qu'on reprend un petit peu, hein, qui viennent compléter, je dirais, un financement qui reste quand même essentiellement à l'acte en termes de philosophie, en termes en tout cas de raisonnement intellectuel dans notre profession, dans nos professions, je trouve. Donc le financement des professionnels de santé, c'est certainement une interrogation. Alors certainement, c'est peut-être pas le salariat qu'il faut, mais entre le salariat d'un côté et un financement totalement à l'acte, il y a peut-être des intermédiaires à trouver. Cinquième tableau, et puis peut-être qu'on discutera peut-être un peu plus après sur d'autres éléments éventuellement. Aussi un enjeu d'actualité en France, puisqu'on en a parlé, mais on a tendance à enterrer ça à l'approche des élections qui arrivent. Donc cinquième tableau, c'est la répartition des tâches entre professionnels de santé, qui me semble un enjeu important. J'espérais beaucoup qu'on pourrait mener cette réflexion, mais j'ai bien compris qu'on la reporterait d'ici 20 ans maintenant. Donc, dans les différents pays, vous avez des professionnels de santé qui ont des activités qui parfois s'appellent pharmaciens, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, etc., mais qui n'ont pas les mêmes activités. Donc, il y a un premier point, c'est que quand on compare les différents pays entre eux, je ne suis pas sûr qu'on compare les mêmes ordres, les mêmes activités réalisées. On voit bien les frontières floues entre l'obstétricien et la sage-femme. On voit bien les frontières floues entre l'infirmière et l'aide-soignante. On voit bien les frontières floues entre le médecin et l'infirmière. La problématique de la délégation de tâches. On voit bien des métiers dans certains pays, comme en Allemagne, où on a des assistantes médicales, qui ont un certain nombre de tâches qui sont aujourd'hui réalisées en partie par des infirmiers, en partie par des médecins en France. Voilà. Mais qui sont des métiers, ce qu'on a pu avoir dans un rapport récemment, des métiers intermédiaires. Hein. Voilà, donc des tâches et des métiers qui ne sont pas le même périmètre. On a bien vu la difficulté qu'on a eue quand on a fait venir des infirmières d'Espagne, notamment dans le sud de la France, mais il y en a certaines qui sont remontées jusque dans la région centre, et finalement la greffe n'a pas prise. La greffe n'a pas prise parce que ils n'ont pas les mêmes fonctions en Espagne ou en France. C'est pas les mêmes tâches et c'est pas les mêmes responsabilités. Donc, du coup, leur venue en France a créé un certain nombre de problèmes. Donc cette répartition entre guillemets de tâches entre professionnels est certainement quelque chose à réfléchir. Et quand on voit cette disparité entre pays, ça pose question. Donc, quand on parle d'Europe blanche avec la libre circulation des professionnels de santé, c'est vrai qu'on a parfois un peu de difficulté à mettre en œuvre au-delà, je dirais, de la frontière liée à la langue, hein, et à la compréhension qu'on peut avoir liée à la langue, bien sûr. Des aspects qui sont d'ordre de répartition des tâches. Donc, les médecins roumains, qui sont très bien formés, voilà, n'ont pas tout à fait la même approche, alors en partie un peu culturelle, parce que c'est déjà un peu plus loin, mais aussi en termes de tâches et de responsabilités que les médecins français, on le voit bien. Donc, on a de nouveau ouvert le numerus clausus, un peu plus, en France, hein, dernière décision de M. Xavier Bertrand. Je n'ai pas parlé de la répartition des professionnels de santé sur le territoire national, qui est une autre réflexion aussi, mais peut-être qu'on aurait pu, avant de rouvrir les vannes du numerus clausus, effectivement re-réfléchir sur cette répartition des tâches, peut-être re-réfléchir aussi sur cette organisation des professionnels de santé entre eux. On voit bien qu'on reste en France sur un exercice majoritairement un peu isolé en France, même si les choses changent et bougent, et que si on regarde nos amis allemands, nos amis anglais, nos amis même espagnols, on voit qu'ils ont depuis un certain nombre d'années regroupé leurs forces, si je puis dire, dans des entités voilà, qui ont aussi leurs limites, hein, qui ressemblent chez nous à ce qu'on appellerait des pôles de santé pluridisciplinaires, hein, des maisons de santé pluridisciplinaires. Voilà. Quel dommage de ne pas essayer de creuser un peu plus ces réflexions avant de retomber dans des solutions qui sont certes, ça peut être des éléments de réponse, hein, le numerus clausus, mais ça ne réglera pas, en tout cas pour nous en région centre. En Poitou-Charentes, vous êtes un peu moins concernés peut-être, mais nous, on est dans les derniers en termes de densité de professionnels de santé sur la région centre par rapport à l'ensemble des régions françaises. Donc je m'arrêterai peut-être sur toutes ces interrogations. On voit bien que les organisations plutôt collectives en termes de profession de santé, ce qu'on appellerait en nous en ville ou à la campagne, différentes d'un pays à un autre, des répartitions de tâches et des métiers différents, et toutes ces réflexions qui pourraient être portées et posées à la lumière de ce que font les autres. Ça ne veut pas dire qu'on puisse retransposer, hein, mais ça doit nous interroger sur ces différents éléments.
Merci pour cette approche thématique qui introduit, à mon avis, très bien le débat. Avant de détendre le débat à la salle, on va demander à Gilles Kerr de proposer ses analyses ou ses compléments de réflexion.
Je vais intervenir sur mes champs de compétences qui sont sûrement moins étendus que ce qui vient d'être présenté. C'est des réactions en fonction de ce que je connais. Alors tout d'abord sur, je dirais, le rapport qualité-prix un peu d'un système de santé ou rapport efficacité-prix, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, l'espérance de vie, elle est très loin majoritairement de dépendre simplement du système de santé. Et depuis les années 1970, on a des études, d'abord aux États-Unis là-dessus, qui montrent bien que le plus important pour la santé, ce n'est pas forcément le système de santé. Alors, dans ce domaine-là, moi, ce qui m'avait intéressé, je ne sais plus si je n'avais pas déjà présenté ici une fois, c'est quelque chose qui s'est développé aux États-Unis dans les années 1990, c'est le concept de capital social. Le concept de capital social, c'est de dire, pour comprendre ce qui se passe sur un territoire, il faut prendre en compte des éléments de lien social, de cohésion sociale, qu'il faut appréhender à travers, par exemple, le taux d'adhésion aux associations, à travers les relations de sociabilité, à travers le taux de participation aux élections, à partir de la participation à différentes réunions, etc. Donc c'est un politiste américain, hein, qui invente ça en 1985, Robert Putnam. Et à l'intérieur de son ouvrage, hein, de son article d'abord, puis de son ouvrage, il évoque deux faits surprenants qui concernent directement la santé. Le premier fait surprenant, c'est de dire il y a deux manières d'améliorer son espérance de vie. C'est soit d'arrêter de fumer, soit de déménager d'un état du sud des États-Unis vers un état du nord américain. C'est exactement le même effet sur l'espérance de vie. Arrêter le tabac ou déménager vers un état du nord des États-Unis où justement le capital social, où justement la sociabilité, la participation associative, la participation politique est meilleure qu'au sud. Donc ça, c'est le premier élément qui montre bien que il n'y a pas que des questions de santé ou je dirais de comportement de santé, il y a aussi des phénomènes psychosociaux, hein, comme vous l'avez dit. Deuxième exemple que prend Putnam, c'est de dire adhérer à une association, c'est gagner un an d'espérance de vie. Toute chose égale par ailleurs, le simple fait d'adhérer à une association, statistiquement, ça fait gagner un an d'espérance de vie. Alors, ça, c'est aux États-Unis, vous me direz, bon, et puis, bon, Putnam a été suffisamment critiqué, hein, parce que les deux faits que je viens de vous citer sont très discutables du point de vue économétrique, hein, c'est des calculs qui sont un petit peu biaisés. Mais dans mon autre champ de compétences, qui est le départ en vacances des Français, je suis tombé récemment, en 2011, hein, sur une étude espagnole. En Espagne, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est le ministère de la Sécurité sociale. Le ministère de la Sécurité sociale en Espagne a lancé maintenant, il y a 15 ans, un programme de départ en vacances des retraités espagnols. Ça touche aujourd'hui 1,5 million de retraités espagnols qui partent en vacances. C'est financé en partie par la Sécurité sociale. Et donc, évaluation officielle du gouvernement, on a dû fêter les 25 ans hein, de ce programme, je pense. Et l'évaluation officielle a été faite sur différents angles, économique, emploi, satisfaction des retraités, mais aussi sur l'angle santé, et notamment sur les visites chez le médecin et la consommation de médicaments. Et ils se sont aperçus qu'entre l'avant départ en vacances et l'après départ en vacances, eh bien, ces retraités espagnols, il y avait 25% de visites de généralistes en moins et qu'il y avait 15% de consommation de médicaments en moins. Et donc, vous voyez ici, là encore, que on est dans un tout autre champ que ce qu'on entend traditionnellement par dépenses de santé, mais que ce type d'action peut avoir un effet. Peut avoir un effet alors non seulement sur le bien-être de la population concernée, hein, qui, par ailleurs, il y a des questions sur le ressenti en termes de qualité de vie et de bien-être, mais également en termes de consommation médicale. Donc ça, c'est le premier aspect. Hein, ces déterminants psychosociaux, bien souvent, on se dit, ben oui, c'est évident, mais c'est difficilement mesurable, c'est difficilement évaluable. On a quand même des indices, on a des études, et de plus en plus l'IRDES en France, hein, depuis maintenant, je dirais, 4-5 ans, s'intéresse à ces déterminants psychosociaux et essaye de se demander si on ne peut pas avoir des politiques publiques qui joueraient sur ce type de déterminant et qui pourraient avoir un effet, un euro dépensé sur le départ en vacances ou un euro dépensé sur, par exemple, des subventions d'adhésion à des associations sportives, pourraient avoir des effets sur la santé qui seraient peut-être plus intéressants qu'un euro de dépenses médicales. Deuxième réflexion sur toujours ce rapport efficacité-prix, puisque je suis économiste. Alors, je vais revenir sur quelque chose qui est très ancien, qui est connu et qui a été très très discuté, c'est le classement de l'Organisation mondiale de la santé de 2000. L'Organisation mondiale de la santé, en 2000, pour fêter le passage au millénaire, a essayé de classer les différentes santé de par le monde, donc sur de mémoire, il va y avoir 160 pays sous revue. Hein, quelque chose comme ça. Ça a été fait sur des chiffres, hein, c'était un gros, gros travail, ça a été fait sur des chiffres de 1997, donc c'est des données qui ont maintenant presque 15 ans, hein, donc il faudrait évidemment les actualiser, il s'est passé beaucoup de choses en 15 ans. Néanmoins, ce qui ressort au final, c'était justement d'essayer de faire un espèce de rapport qualité-prix, efficacité sur coût dépensé, et le système qui arrivait en premier, vous le savez tous, c'est la France. Le système français a été classé premier, tout au bout du classement, je ne détaille pas ici la manière dont ça a été obtenu et dont ça a pu être discuté, mais c'est assez symptomatique, hein. On a tendance à beaucoup critiquer le système français, à s'auto-critiquer. Il ne faut pas oublier hein, ce classement de l'an 2000 qui nous classait en tête bien avant, par exemple, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, hein, auxquelles on fait souvent référence. Alors, je ne dis pas que le système de français est parfait, je ne dis pas qu'on a le système le meilleur au monde, mais il ne faut pas quand même, parfois, que peut-être on se flagelle trop sur la qualité de notre système. Malheureusement, hein, ce type d'étude n'a pas été reproduit. Je pense que c'est tout simplement une question de coût. Hein, ça a été un gros effort de l'OMS. Ça n'a pas été reproduit 10 ans après, il y aurait sans doute beaucoup d'évolutions à faire. Entre parenthèses, hein, ce classement prenait en compte également les inégalités d'accès aux soins. Hein. Ce n'est pas qu'un classement sur la moyenne de l'espérance de vie ou de différentes mesures de l'état de santé ou simplement du coût moyen par habitant. Ça prenait en compte l'inégalité aux accès aux soins, la qualité des soins, etc. C'est un classement assez complexe, hein, qui a été beaucoup critiqué, qui est critiquable, mais c'était un effort original et intéressant. Troisième réaction, alors là c'est plus une question peut-être à Gérard. J'ai entendu le terme démocratie sanitaire. Il me semble qu'en 1945, quand on monte le système de sécurité sociale en France, le terme qu'on employait, ce n'était pas démocratie sanitaire, c'était démocratie sociale. C'était plutôt le terme qui était valorisé. Donc, cette question, à la fois alors du système paritaire, hein, d'un développement d'un système de co-gestion paritaire, je dirais, de la sécurité sociale. Mais également, quand on écoutait le discours de Pierre Larocque, derrière la démocratie sociale, il y avait aussi la question de la participation des usagers à la gestion des caisses à travers les élections aux caisses de sécurité sociale, les élections auxquelles on a définitivement renoncé. Et donc, cette démocratie sanitaire, aujourd'hui, elle reste une démocratie représentative et non élective. Donc, je crois que là, il y a eu un renoncement, alors qui a été de longue durée. Hein, ça remonte aux années 80, quasiment. Mais je crois qu'il y a un glissement de terme. Alors, bon, là, je crois que Gérard a peut-être des choses à dire sur ce glissement de terme. Alors, ensuite, sur les paniers de biens et services de soins, j'étais très, très intéressé. J'ai appris des tas de choses. Moi, je reviendrai sur quelque chose qui est très connu, hein, peut-être trop connu, c'est le dentaire et l'optique. Les remboursements dentaires et d'optique. Alors là aussi, on s'autocritique beaucoup en France en disant c'est très 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 mal remboursé. Il faut aller voir dans les autres pays européens. Dans d'autres pays européens, c'est pas du tout remboursé. Certains pays ont fait le choix en matière de dentaire, par exemple, de ne rembourser que les enfants et les adolescents. Je crois que c'est le choix de la Suède, hein, de mémoire. Les dépenses dentaires sont remboursées que jusqu'à 18 ans. Ensuite, il n'y a plus aucun remboursement de la part de la sécurité sociale. Donc ça, c'est la première chose. Je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Hein. Je dis juste que par rapport aux dentaires, les choix sont très très différents selon les pays européens. Bon, l'optique, je connais moins bien, donc j'en dirai pas plus. Mais ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il y a une question de taux de prise en charge, mais aussi la question des marges, hein, des différents opérateurs en matière dentaire et en matière d'optique, et des pratiques mutualistes par rapport à ces remboursements qui sont aussi extrêmement... qui sont à discuter. Hein. Quand on dit c'est mal pris en charge, hein, il faut voir aussi par rapport à la définition, par rapport à la définition des prix, hein, qui peuvent exister. Ma sixième réaction, et c'est mon avant-dernière, toujours par rapport à ce panier de biens et de services de soins, je me suis dit finalement, quand on compare la Grande-Bretagne et la France ou l'Allemagne, il faut bien voir que les hommes qui sont au fondement de ces systèmes sont originaires de disciplines différentes. Si on prend l'Angleterre, le système anglais, c'est un système beveridgien. Beveridge, c'était un économiste. C'est un économiste, professeur à Cambridge, grand ami de Keynes. Et donc, quand il réfléchit à la sécurité sociale, quand il est chargé par Churchill de réfléchir à la mise en place d'une sécurité sociale, et notamment du NHS en Grande-Bretagne, il a quand même un raisonnement en termes d'économiste. Et donc, je pense que ce n'est pas un hasard si, encore aujourd'hui, en Grande-Bretagne, on compare un euro dépensé dans différentes possibilités. Je crois qu'il y a cette culture économiste à l'origine du système de sécurité sociale anglais, de manière très large, mais notamment à propos du NHS. Quand on prend la France, alors bon, il y a beaucoup de discussions en France s'il faut trouver un père fondateur. Pendant très longtemps, on a dit c'est Pierre Larocque. Aujourd'hui, on remonte en Ambroise Croizat. Je prendrai Pierre Larocque, même si c'est peut-être pas celui que je préfère, mais bon, c'est pas la question. Pierre Larocque, c'est un juriste. C'est fondamentalement un juriste, un homme d'administration. Et c'est un homme qui passe par Londres avec De Gaulle, qui est influencé en partie par Beveridge, mais je dirais qu'il y a un raisonnement en termes de droits de l'homme, hein, je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Et donc en termes de défense des droits de l'homme, il a une approche de la santé qui est très différente, hein, qui est une approche en termes de droit et peut-être pas en termes d'économiste. Et puis si on parle de l'Allemagne, le grand homme c'est Bismarck, et Bismarck là c'est un politique. C'est un politique, c'est une toute autre approche. On est dans une approche d'encadrement de la classe ouvrière, hein, fin 19e siècle, d'un système de santé, de sécurité sociale de manière générale, ce qui inclut la santé, qui est une approche d'encadrement d'une classe particulière, d'une approche très politique des choses, et qui est complètement différente. Je vous rappellerai juste qu'aujourd'hui en Allemagne, c'est l'un des rares pays où l'assurance maladie n'est pas universelle, hein, puisque les 10% les plus riches de la population allemande ont le choix d'adhérer à l'assurance maladie publique ou d'aller vers un système privé. Et c'est un des héritages historiques du système bismarckien, avec cette idée que les riches bon, sont suffisamment riches pour pouvoir se payer leur propre protection, mais aussi sont suffisamment responsables pour être capables de faire un calcul coût-avantage raisonnable. Donc je crois qu'il y a une culture, en effet, vous avez bien dit, il y a ce qu'on appelle en langage économique des sentiers de dépendance. Hein. Quand on a choisi un système au départ, ça va avoir de l'influence, y compris 40 ou 50 ans après, et on peut faire évoluer un système, mais on ne peut pas le bouleverser de fond en comble. Mais au-delà de ça, je crois que la culture de base dans les trois pays est assez différente quand on prend, par exemple, ces personnages fondateurs. Et puis, dernier point, sur le financement des professionnels de santé. Est-ce que le financement à l'acte est inflationniste? Je pense que les choses évoluent par rapport à ça, et je dirais, pour caricaturer un peu les choses, il est peut-être moins inflationniste qu'il ne l'était dans le temps. Mais ce n'est pas tellement ça qui va m'intéresser, c'est surtout l'effet que ça a sur les coûts de gestion du système, enfin du système d'assurance maladie, hein, puisque je suis plus spécialisé sur la protection sociale. Quand on regarde les coûts de gestion du NHS en Angleterre, on est sur des coûts de gestion qui sont... de mémoire, qui tourne autour de 2% des sommes concernées. Quand on regarde les coûts de gestion de l'assurance maladie en Allemagne, on doit être de mémoire autour de 5%. Quand on regarde les coûts de gestion de l'assurance maladie en France, on est autour de 6%. Donc, on est plutôt dans la moyenne haute européenne en matière de coûts de gestion, parce qu'on a un système qui est... Pourquoi ces coûts de gestion sont plus élevés? C'est pas que les salariés de l'assurance maladie en France sont moins performants que les autres, pas du tout. Hein. Simplement qu'on a un système plus complexe. Plus le système est complexe en termes de catégories de remboursement, de modalités de remboursement, de prise en compte de la part principale, de la part complémentaire, etc., plus c'est coûteux à gérer, forcément. Hein. Un système uniforme tel que le NHS, c'est le principe de Ford, c'est le principe de la standardisation. Vous pouvez choisir la voiture que vous voulez du moment que c'est la Ford-T et qu'elle est de couleur noire. Bref, vous n'avez aucun choix. Donc forcément, les coûts de gestion sont plus faibles. Bon, donc on est dans la moyenne haute européenne. Néanmoins, il faut bien signaler que par rapport à un système type américain, on en est extrêmement loin, hein, puisque le système américain, les coûts de gestion tournent autour de 20% des sommes brassées. Donc ça n'a rien à voir. Et également en termes de coûts de gestion, je dirais, il y a aussi, ça c'est les coûts de gestion internes de l'assurance maladie, il y a aussi les coûts de gestion externes au niveau des professionnels de santé. Il y avait une petite étude intéressante qui avait été menée au milieu des années 90 aux États-Unis qui comparait le nombre de minutes que consacrait un médecin américain à remplir une feuille maladie et combien de minutes mettait un médecin canadien à remplir une feuille d'assurance maladie, en sachant que le système canadien est assez proche du système anglais. Eh bien, de mémoire, le médecin américain mettait... Alors, c'était sa secrétaire, mais bon, peu importe. Le médecin américain mettait quelque chose comme 12 minutes pour remplir la feuille d'assurance maladie. Le médecin canadien mettait 3 minutes. Pourquoi ? Parce que dans le système américain est éclaté. Les feuilles... Alors, à l'époque, ce n'était pas de l'électronique, hein, c'était encore des feuilles papier. Les feuilles étaient... très très différentes selon les assurances de la personne, les cases à remplir étaient différentes, il n'y avait aucune uniformité, il fallait envoyer à des adresses différentes, il fallait facturer de manière différente, etc., alors que le système canadien était extrêmement uniforme. Donc le financement des professionnels de santé, hein, je dirais, ça a des conséquences en termes d'évolution des coûts, mais ça a également des conséquences, hein, au niveau des coûts de gestion. Voilà quelques réactions qui me sont venus en cours de route.
Merci. On va donc élargir le débat. On a un micro qui va circuler. N'hésitez pas. En tout cas, pour commencer, Gérard a été interpellé.
Je te poserai. Oui, j'étais interpellé un peu là sur la création de la sécurité sociale. En fait, c'était, enfin, plutôt que de le mettre à quelqu'un, cette création, moi je crois que l'important c'était le militantisme dans le Conseil national de la résistance et cet esprit de repartir sur des bases nouvelles. Alors, on est reparti sur des bases nouvelles, j'allais dire politiques et sociales, après la guerre, avec une perspective de reconstruction, de changer le droit, l'éducation et le droit à la santé. Mais c'était bien entendu et avant tout le social, parce que avant la guerre, il existait des sociétés mutuelles et des sociétés mutualistes qui, dans certaines entreprises ou dans certaines corporations, jouaient le rôle, enfin, où étaient ont posé les prémices de ce que sera la sécurité sociale dans l'après-guerre. Et la moitié des dépenses de sécurité sociale en 1946, c'est les indemnités journalières qui permettent aux gens de vivre et de continuer à vivre, eux et leurs familles, quand ils sont malades. Donc c'est bien, on est bien là dans des mesures sociales et dans des mesures qui sont faites pour l'ensemble de la société, et on essaye d'unifier un système. Et on se rend compte qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'un côté, on va dire, des un petit peu privilégiés ou qui avaient déjà leur mutuelle qui ne veulent pas rentrer dedans. Bon, je vous en citer un pour les mineurs de fonds, qui, eux, étaient un peu plus riches que la moyenne, donc ils refusent d'être solidaires à cette époque-là. Et puis deux grosses corporations qui existent toujours aujourd'hui et qui ne veulent pas rentrer dedans, pour la même raison à peu près, d'un côté les agriculteurs, de l'autre les artisans et les commerçants, qui estiment que leurs cotisations sont trop élevées. S'ils cotisent au même niveau que le régime général, ça représente trop, puisqu'ils cotisent en tant que travailleurs indépendants la cotisation salariale et patronale en même temps. Et donc, eux disent, on cotise beaucoup moins histoire d'avoir un filet de sécurité, mais on construit un capital par nos terres, nos bêtes quand on est agriculteur, notre fonds de commerce ou notre outil de travail quand on est... Et donc, on se met pas dans le même système de solidarité. Donc ça, c'est les loupés, je dirais... Et petit à petit, le régime général et la grande solidarité reprend tous ceux qui ont refusé de rentrer. Et là, aujourd'hui, on peut dire que le régime général, de par les compensations démographiques absolument légitimes, hein, c'est surtout pas pour remettre en cause, mais finance le régime agricole. Le régime agricole ne se finance pas à 50% aujourd'hui. Simplement parce que les enfants d'agriculteurs ne sont plus agriculteurs. Un agriculteur qui a 3 enfants, s'il y en a un qui reste sur l'exploitation, c'est un grand maximum. Et les deux autres, ils sont dans le régime général. Donc, ils cotisent dans le régime général. Et c'est normal que les cotisations du régime général aident leurs parents. C'est surtout pas pour opposer les gens entre eux, mais pour montrer comment, que la solidarité devait être beaucoup plus globale. Donc, voilà. Et puis, sur la démocratie aussi, moi, je rappellerai qu'au début, parce que c'est vrai qu'on se perd là, dans ces systèmes, au début, la sécurité sociale, c'était pas paritaire. Les salariés étaient majoritaires. Ils l'ont été jusqu'en 1968. Et bon, on peut dire du mal des camarades. Donc en 68, c'est l'accord qu'il y a eu entre Force ouvrière et le MEDEF qui a amené la parité et a amené FO à la tête de la sécurité sociale. Enfin, c'est la grande époque. Là. Enfin, c'est vraiment une marche dans l'histoire de la sécurité sociale, ce 68. Et puis on est revenu à la majorité des salariés aux dernières élections de sécurité sociale qui ont eu lieu en 1983. Et en 1983, les salariés étaient majoritaires dans les caisses. Mais ça a été très vite contrebalancé. On a dû arrêter en 91 ou quelque chose comme ça. Mais là, on a eu... Mais avec une législation qui avait tellement évolué que les prérogatives et le pouvoir du... Avant 1968, le président de la caisse, qui était un salarié, et à chaque fois, avait un véritable pouvoir de recrutement et d'orientation sur ce qui se passait dans une caisse d'assurance maladie. Donc, en 83, la législation était tellement encadrée, le poids de l'État était déjà devenu tellement important, que malgré que la plupart des présidents étaient des présidents salariés, ils n'avaient plus cette possibilité et le directeur avait des prérogatives qui dépassaient celles du président. Mais je crois que c'est quand même... C'est aujourd'hui tellement galvaudé. puisque tout ce que aujourd'hui on peut avoir en tant que citoyen nous est redonné par l'assurance maladie et non pas par l'État, sauf que l'État ordonne de plus en plus de dépenses de l'assurance maladie. Mais enfin, je veux dire, moi qui ai représenté l'assurance maladie pendant un certain temps et dans un certain nombre, je veux dire, j'ai toujours été outré de voir quelle courbette on pouvait faire à l'État pour le remercier de financer tel hôpital, tel appareillage et tout, alors que l'État ne faisait qu'ordonner la dépense et que c'est l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie du coin qui faisait le chèque. Et l'agent comptable faisait le chèque avec l'ensemble de nos cotisations et de notre CSG. Mais c'était bien l'argent de l'assurance maladie. Et c'est toujours l'argent de l'assurance maladie. Et c'est toujours l'argent comptable de la caisse primaire de Poitiers qui donne l'argent au CHU, aux autres hôpitaux et tout. C'est toujours lui qui le donne. Mais c'est bien sûr l'État maintenant qui ordonnance le gros de la dépense. Et sans la signature de l'État, l'agent comptable ne peut pas payer. Mais l'agent comptable paye encore. J'aurais une question, donc, puis je passerai à la parole à Dominique pour qu'il puisse en poser. Moi, j'avais une question sur entre décentralisation et déconcentration. Ce qui fait peur dans la décentralisation, ou ce qui peut faire peur, c'est les inégalités entre les citoyens en fonction du lieu où ils habitent. Et cette question-là, là, je ne sais pas si on a des éléments assez précis, de savoir si effectivement le fait de donner un pouvoir régional permet que chaque citoyen ait des droits équivalents, et comment on arrive à avoir ces droits équivalents, sachant qu'on a de très mauvais exemples, on va dire. Quand on a décentralisé des aides, comme les aides pour les personnes âgées aux conseils généraux, on s'est rendu compte qu'on avait des différences de traitement en fonction du département dans lequel on habitait, différences de traitement qui étaient suffisamment importantes pour que l'État reprenne la main et réégalise les prestations dépendance et maintenant autonomie, qui était à l'époque à la discrétion des conseils généraux. Donc, c'est ce qui fait peur dans une vraie décentralisation sur la maladie.
Tu veux la réponse à la question ? Oui, je peux. Alors, je vais poser des questions de béotien, en fait. Je voudrais vous livrer des choses en vrac, et j'aimerais bien avoir votre retour sur des notions de prospective. En vrac, j'ai le sentiment qu'on est au bout d'un système, notamment sur le plan économique. Je ne veux pas compléter les propos de Gérard, parce qu'on ne peut pas compléter les propos de Gérard. Mais le principe de base au niveau sécurité sociale, c'est chacun cotise en fonction de ses possibilités et reçoit en fonction de ses besoins. À l'inverse, dans la protection complémentaire, en réalité, chacun choisit le niveau de complémentaire qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'il finance un niveau de complémentaire pour recevoir une prestation. Comme monsieur l'économiste parlait de le meilleur exemple, c'est bien le dentaire et l'optique. Alors, je vous livre ça en vrac, sachant que les difficultés sont devant nous, qu'une certaine logique pourrait être la simplification. Gérard en a parlé, on aurait un régime de base, ça simplifierait beaucoup de choses, mais le régime de base pourrait également avoir le rôle de la complémentaire. Ce que je veux évoquer par là, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu des prix prohibitifs qui vont être, qui vont d'ici 2012 se générer, et notamment sur les gens qui sont en retraite, les gens ne vont plus payer leur complémentaire. Ils vont renoncer aux soins. Et si on rajoute à ça la problématique des retraites, il y a quelque chose qui m'effraie, j'aimerais bien que vous puissiez en dire un mot là-dessus, c'est qu'en Italie, ils ont voté cette semaine l'arrêt de l'indexation des pensions retraites au-delà de 1000 euros. Alors quand on prend tous ces ingrédients, j'aimerais bien avoir une vision un petit peu prospective, si vous le pouvez.
ces questions parce que dans les questions, on apprend toujours autant que. Je vous en remercie. Parce que, alors, sur les inégalités de santé, la vision que, sur la décentralisation par rapport aux inégalités. Il y a effectivement cette crainte. Simplement, cette crainte, elle percute une autre réalité qui est qu'il y a quand même beaucoup d'inégalités aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avoir peur que la décentralisation entraîne des inégalités, ça, je pense qu'on la partage tous, en fait. Mais en même temps, on ne peut que constater l'importance des inégalités d'aujourd'hui avec un système qui n'est pas décentralisé, mais qui est déconcentré. Donc, il faut certainement trouver un mixte, effectivement, pour ne pas arriver sur les dérives qu'on a pu constater. Alors, à l'époque, je ne sais plus si ça s'appelait la LAPA encore, déjà, à l'époque, sur... la prestation autonomie, c'était la PSD, oui, merci, prestation spécifique dépendance. Donc, il faut certainement pouvoir challenger un cadre général qui évite des dérives trop importantes. Alors, après, le système à bout de souffle, parce que c'est un peu la même question, en fait, elle n'est pas très éloignée. Là, j'ai peur d'entrer dans un débat sur lequel je ne vais pas m'en sortir et... Qui peut nous mener fort loin, qui est le débat de la redistribution de la richesse dans un pays donné. Alors, moi, j'ai une définition de l'économie que j'aime bien, parce qu'elle tient en une phrase, alors du coup, je la donne beaucoup, je la cite souvent, l'économie, c'est la science de la gestion des ressources rares. Voilà, c'est vraiment très court. Finalement, les économistes s'intéressent à partir du moment où, finalement, par rapport à des besoins infinis, on n'a pas tous les moyens nécessaires pour satisfaire. Et donc, du coup, il va y avoir un système de marché, d'offres, de demandes, etc., qui va essayer de réguler tout ça. Mais voilà, quand on dit sur la santé, les ressources sont rares et les besoins sont illimités, certes, les besoins sont importants, illimités, je ne sais pas, mais certainement très importants, besoins de santé qu'on ressent, etc. Et en même temps, quand on dit que les ressources sont rares, on définit un petit peu quelle est la quantité de ressources que l'on met pour alimenter le système de santé ou d'ailleurs d'autres dépenses sociales et collectives. Donc pour moi, ça renvoie quelque part à un problème de distribution et de redistribution de richesses. L'écart entre les départements, c'est sûr que quand on demande à un département pauvre de supporter des compétences en fonction de ses richesses, si je puis dire, de ses recettes, alors soit sous forme de subvention de l'État sur la délégation de compétences, soit sous forme de ce qu'ils peuvent espérer au travers des impôts locaux qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce qui empêche qu'il y ait une redistribution des départements riches ou des régions riches vers les régions pauvres? Voilà, quelle est cette part de redistribution qu'on accepte, parce que bien sûr qu'il y a des régions où il y a moins d'industrie, il y a moins d'entreprises, d'organisations, etc., économiques, que d'autres. Maintenant, on est bien content d'y aller en vacances par ailleurs. C'est un peu comme le citadin qui va à la campagne pour se ressourcer, qui proteste vivement de tous ces déforestations, de ces agriculteurs qui répandent des pesticides et autres, mais finalement, on est bien content quand même qu'il y ait des gens qui s'occupent de la campagne. Voilà, donc, je pense que votre réflexion, elle est indissociable, et du coup, je ne sais pas comment la traiter, ou ça nous donne moins, de la problématique de la redistribution de la richesse dans notre pays, entre le travail, le capital, entre les différents corps sociaux, entre les différents territoires.
Sur la décentralisation, je crois qu'il y a deux choses. En effet, il y a la crainte des inégalités, mais il y a la question de la décentralisation du financement et la question de la décentralisation du système de santé. Alors, si on regarde le système suédois, le financement est national, centralisé, uniforme, défini par la loi. Donc là, c'est une centralisation totale au niveau du financement. Par contre, ensuite, au niveau du système de santé, notamment, alors je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais au niveau, par exemple, de la gestion des hôpitaux, c'est extrêmement décentralisé. Donc, je crois qu'il y a dans les possibilités de décentralisation, il y a déjà bien à différencier ce qui est du financement de ce qui est du système de santé. Et ensuite, à l'intérieur même du système de santé, il y a différentes possibilités selon qu'on s'intéresse aux hôpitaux, à la médecine de ville, etc. Bon, et je crois que le système suédois, depuis l'origine, fonctionne sur à la fois le principe d'égalité de tous les citoyens devant la santé et sur une décentralisation assez fin au niveau du territoire. Je crois que c'est régions, communes, etc. Enfin, c'est pas les communes, c'est les comtés, je crois, en Suède, je sais plus quelle est l'unité institutionnelle. Mais je crois que là, il y a quelque chose d'assez original. La deuxième remarque, c'est sur les complémentaires. Alors, sur les complémentaires, je crois qu'il y a énormément de choses à dire. La première chose à dire, c'est qu'il y a les complémentaires, d'abord, je dirais, d'entreprise, puis il y a les complémentaires personnels. Donc, les complémentaires d'entreprise... je dirais là, c'est bon, on le sait bien, hein, plus on est dans une grosse entreprise et plus on a un statut, non précaire, plus la complémentaire sera favorable et sera financée à un taux important par l'entreprise. Par contre, au niveau de la complémentaire personnelle, c'est un autre système, à la fois en termes de choix, en termes de possibilités de financement, etc. Donc, je crois qu'il y a déjà une distinction là-dessus. Et en effet, vous avez raison de dire, quand on bascule dans la retraite, eh ben, si on avait une complémentaire d'entreprise, c'est terminé. Et il y a aussi sur les complémentaires, troisième chose à prendre en compte, le fait que certaines complémentaires vont avoir des cotisations qui sont calculées par rapport aux revenus, et d'autres complémentaires vont avoir des cotisations qui sont fondées sur l'âge ou sur d'autres critères. Donc, parmi les complémentaires mutualistes, complémentaires d'assurance privée, etc. Donc, on a un panel de complémentaires qui répondent à des principes, à des financements qui sont extrêmement différents. Et on a, par rapport à ça, on a des inégalités extrêmement profondes au sein de la population française. C'est-à-dire que, bien souvent, on s'arrête juste au fait de dire qu'il y a 90% de la population qui a une complémentaire, soit... qui payent d'une manière ou d'une autre, soit à travers la CMU-C, puis il y en a 10% qui n'en a pas. Dans les 10% qui n'ont pas de complémentaire, il y en a 5%, c'est parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils sont en bonne santé, et puis il y en a 5% qui n'ont pas les moyens financiers. Mais au-delà de ça, dans les 90% qui ont une complémentaire, il y a des écarts absolument fabuleux en termes de pourcentage de remboursement, en termes de financement, en termes de calcul de la cotisation, etc. En termes de risque, hein, les mutuelles professionnelles, c'est évident qu'une mutuelle enseignante, et je suis dans une mutuelle enseignante, c'est moins coûteux un enseignant qu'une mutuelle du bâtiment, enfin, je veux dire, bon, etc., etc. Il y a des effets professionnels. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur base complémentaire, alors, bon, c'est un des grands sujets là aussi avec Gérard, il faut voir ce qui se passe sur le régime Alsace-Moselle. On est en France, on est sur 3 départements français où les complémentaires ont un rôle beaucoup moins puissant que sur le reste du territoire du fait de l'histoire de l'Alsace-Moselle. C'est la conséquence du système allemand. Et on a là un système qui est extrêmement performant à tous les niveaux parce que justement la part complémentaire est extrêmement réduite et qui est performant, je dirais, en termes de coût moyen, mais également en termes de non-inégalité. Donc je crois que là, on a une expérience de... Ça fait depuis 45, hein, donc ça fait quand même 65 ans de recul, et une expérience très très peu étudiée. C'est-à-dire qu'on en parle très peu de ce qui se passe en Alsace-Moselle, pourtant c'est chez nous. Et je crois que là, il y a des éléments qui sont intéressants hein, sur ce, où est-ce qu'on met le curseur entre la base et le complémentaire. Et puis... bon, en Suède, il y a aussi quelque chose que j'aime bien, c'est la réflexion qu'ils ont eue au milieu des années 90 sur les arrêts maladie. Au milieu des années 90, la Suède est le pays recordman du monde en termes d'arrêts maladie. C'était de mémoire 28 jours d'arrêt maladie par salarié et par an. À l'époque, en France, on devait être à 6 ou 7 jours, à peu près. Donc évidemment pour les libéraux attaque traditionnelle en disant c'est normal, en Suède l'indemnité journalière maladie est calculée à 80% du salaire d'activité, on encourage les Suédois à tout propos de prendre des arrêts maladie et les Suédois bien qu'à l'époque justement il y avait des graves difficultés économiques en Suède ont étudié le problème et ont finalement trouvé que c'était pas si mal que ça ce record. Parce qu'en fait, ils dépensaient beaucoup plus en termes d'indemnité journalière maladie, mais ils dépensaient moins en termes de médicaments et de visite médicale. C'est que le repos est aussi un gage de santé. Et donc, ils en ont déduit qu'il y avait d'autres... Alors, il y avait d'autres causes derrière ça. Il y avait aussi le comportement patronal qui incitait les salariés, plutôt que de déclarer du chômage partiel, à les mettre à se déclarer... à s'entendre pour le mettre en arrêt maladie. Bon, il y a beaucoup de choses derrière ça. Mais tout ça pour dire qu'il y a des réflexions à faire, il y a des balances à faire entre différents types de dépenses. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours plus d'euros qui permettront forcément plus d'état de santé, mais il y a des balances entre les différentes catégories de dépenses qui peuvent être intéressantes, d'étudier. Et puis après, est-ce qu'on est au bout d'un système ? Je crois que ce n'est pas spécifique à l'assurance santé. On est au bout d'un système dans la mondialisation actuelle où tout système, en effet, redistributif pose un problème de concurrence économique. Je crois que ce n'est pas le système de santé qui est au bout. C'est la question plus générale de la mondialisation qui fait que tous ces systèmes de redistribution sont en extrême difficulté. Évidemment, pour moi, c'est une mauvaise chose. Mais au-delà de ça, je crois que c'est pas du tout spécifique à la France. C'est pas le système français qui est au bout. C'est tous les systèmes européens. Plus largement, qui sont en difficulté. Voilà.
Bonsoir. Trois remarques, deux questions. Il me semble déjà qu'il faut... je constate qu'il y a des fois la confusion entre, dans le système français par exemple, l'accès aux soins et l'efficacité du système. La France est bien placée pour l'accès aux soins. Pas spécialement pour l'efficacité du système. Deuxième remarque, vous avez parlé d'espérance de vie, mais il est aussi important de voir des indicateurs tels que la proportion de population en bonne santé à tel âge, à 30 ans, à 50 ans, à 70 ans, à 100 ans, etc. Et que à un âge donné, 50 ans par exemple, un ouvrier en général est 6-7 ans plus tôt malade ou avec un problème de santé qu'un cadre. Autre remarque, on est de plus en plus dans un système économique, financier. On parle d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché, que ce soit des produits phytosanitaires ou des médicaments. Ce n'est pas autorisation de diffusion ou mise à disposition du public, c'est autorisation de mise sur le marché. C'est vraiment le marché. Il y a du business à faire, probablement. Et par rapport à ce business, quand vous donniez l'exemple de la vasectomie, ça fait une opération, ça donne du boulot un peu pour un chirurgien ou une chirurgienne et des infirmiers ou des infirmières, mais ce n'est pas du tout bon pour le commerce de pilules, etc. Et la question, c'est est-ce qu'en France et dans d'autres pays européens, il n'y a pas intérêt à avoir des clients fidèles, des malades qui restent un peu malades en leur vendant des médicaments pour les maintenir à peu près debout, mais peut-être que c'est pas très bon pour la croissance, pour le PIB, qu'ils soient complètement guéris, parce que ça fait pas de bon commerce. Une autre remarque, il y a certains pays, je suis pas capable de les citer, mais qui avaient un ministère à la fois de la santé et de l'environnement. Il y a eu ça en Amérique du Sud, entre autres, mais je ne me rappelle plus où. Et peut-être que ça permet d'avoir une vision un peu plus sur de la prévention et des conditions globales de santé du milieu et des personnes qui vivent dans ce milieu. Vous donnez plusieurs fois l'exemple suédois. En Suède, il est interdit pour les dentistes d'appliquer ce qu'on appelle amalgame dentaire depuis 20 ou 30 ans. On appelle ça des plombages, mais en fait, c'est parce que le mercure qui est dans l'amalgame peut rediffuser sous forme gazeuse dans la bouche. Donc, c'est une forme de prévention. Une autre forme de prévention, c'est les médias. Bouygues, quand il a été candidat en 89, je crois, pour prendre TF1, a dit, nous, notre défi, c'est que TF1 soit une chaîne d'information culturelle et éducative et de récréation, ou de loisirs. Puis un mois après avoir eu le marché, il a dit ben non, le côté éducatif et culturel, c'est pas rentable, donc on ne l'abordera pas. Et effectivement, quand on a des émissions de télé qui sont que sur vente de Coca-Cola pour avoir le cerveau disponible, ça n'incite pas trop à avoir une vision plus de qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une santé à titre individuel ou collectif. Voilà. Donc, est-ce que vous savez si dans d'autres pays, l'emprise des firmes pharmaceutiques, entre autres, avec l'intérêt des actionnaires, est de plus en plus forte ? Et si dans d'autres pays, les taux de remboursement de médicaments ou de services médicaux ont tendance à se réduire, avec le risque ou la volonté cachée que des personnes et peut-être des députés disent on paye des cotisations et on a très peu de remboursement, donc à la limite on va sortir du système sécurité sociale, on va payer nous-mêmes à part une mutuelle ou une assurance et on ne sera plus dans le circuit et resteront dans le circuit ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Et comment ils seront, eux, pris en charge en partie ? Quid ?
Je laisse répondre. Je pense qu'on partage vos remarques sur effectivement l'accès aux soins est une chose, l'efficacité du système en est une autre. L'accès aux soins est d'ailleurs un concept compliqué parce qu'il y a l'accès aux soins primaires, entre guillemets, le fait de pouvoir aller voir un professionnel de santé, ça ne garantit pas une équité de prise en charge derrière. Donc après, il y a l'accès aux soins secondaires qui est, une fois que j'ai atteint le système de santé, comment je suis traité, entre guillemets, pris en charge ou comment je m'y retrouve à l'intérieur. Et là, on a aussi beaucoup sur... Il y a beaucoup d'inégalités dans cette prise en charge. On voit bien qu'il y a une congruence culturelle entre mettons les médecins et les cadres et les professions catégories socio-professionnelles supérieures entre guillemets qui fait que on partage un même modèle explicatif des maladies, donc on comprend mieux ce que nous dit le médecin, etc. Enfin, il y a plein de réflexions beaucoup plus poussées d'ailleurs dans des pays comme les États-Unis curieusement, parce que peut-être les chocs culturels sont plus importants et sont plus explicités qu'ils ne le sont chez nous, sur nous en France. Voilà, donc l'accès aux soins est un concept difficile. La remarque que je ferai en complément, c'est que nous, quand on parle d'inégalité de santé en France, souvent nos pouvoirs publics disent réponse égalité d'accès aux soins. Et je pense que l'égalité de l'accès aux soins n'est pas la seule réponse à une égalité ou au traitement de la problématique de l'inégalité de santé. L'espérance de vie sans incapacité, bien sûr. L'espérance de vie, bien sûr qu'il faut intégrer la notion de qualité de vie à l'intérieur. Alors, le lien santé-environnement, peut-être deux éléments de réflexion. Les agences régionales de santé ont, dans leur constitution, beaucoup d'entre elles ont créé une direction de la santé publique, prévention et de l'environnement. Ils ont associé les deux. Parmi leurs champs de compétences, ils ont réuni les deux dans une même direction. Ça, on a ça assez souvent dans les agences régionales de santé en France. Je ne sais pas si ça va potentialiser l'un avec l'autre en termes de préoccupations autour de la santé et de la prise en compte de l'environnement. Par contre, nous, on a bien vu, lorsque Roselyne Bachelot est arrivée en charge de la santé, elle avait un ministère de la Santé et de la Jeunesse et des Sports, c'est ça, il me semble. Nous, ça a été une grande porte ouverte, pour moi, en tout cas, professionnel de la prévention, pour travailler avec des gens avec qui on ne travaillait pas avant, et notamment toutes les directions régionales de la jeunesse et du sport. On ne se parlait pas avant. Tout d'un coup, on s'est retrouvés quelque part dans le même ministère, en haut, et du coup, en bas, on a discuté ensemble. Et on a beaucoup développé d'actions de prévention en lien avec les associations sportives, ce qu'on ne faisait jamais avant. Donc cette construction, quelque part, parfois de mettre ensemble santé, environnement, et là c'était jeunesse et sport, c'est vrai que ça impulse des dynamiques qui sont très intéressantes. Donc je vous rejoins sur cet aspect-là. Peut-être qu'il y aurait des liens un peu plus étroits dans l'organisation française. Peut-être que ça nous développerait des dynamiques différentes. Alors, sur les firmes pharmaceutiques et l'influence des firmes pharmaceutiques, sur les deux questions que vous avez posées, donc j'ai senti une question sur le poids ou l'influence des firmes pharmaceutiques dans les différents pays, un peu quelque part. Et puis, le deuxième point,
C'était sur est-ce qu'il n'y a pas un système qui fait que en désengageant en désengageant les gens d'un régime de base, finalement, ou en diminuant les prises en charge par rapport à des cotisations, finalement, est-ce qu'on n'allait pas faire éclater une certaine uniformité d'assurance maladie? Alors, sur la première, sur les firmes pharmaceutiques, je pense que l'influence, au sens les tentatives des firmes pharmaceutiques pour influer sur les différents pays, c'est les mêmes influences. Après, simplement, je pense que les contre-pouvoirs qui peuvent exister dans les différents pays sont différents. Les organisations et les possibilités d'expression de ces contre-pouvoirs. Nous, on a quelques contre-pouvoirs. Alors, je vais pas être exhaustif, mais c'est vrai que la revue Prescrire est un petit bout de la lorgnette qui exprime une certaine, au travers d'une indépendance éditoriale, etc., un certain contre-pouvoir. Après, toute la discussion autour des événements, autour du médiateur, etc., c'est quels sont les contre-pouvoirs et les associations qui peuvent se faire dans des agences telles que l'AFSAPS, ou en tout cas les comités d'experts qui sont organisés, qui sont managés, entre guillemets, par l'AFSAPS par rapport aux autorisations de mise sur le marché. Alors, je ferai peut-être un exemple, effectivement, sur un historique, peut-être, où les différents pays ont eu des réactions différentes. Et l'Angleterre est un bon exemple. Dans les années 90, je crois que nous avions rapporté au nombre de médecins 3 fois plus de visiteurs médicaux en France qu'en Angleterre. C'est-à-dire que la puissance de frappe commerciale directement auprès du médecin était bien plus importante en France qu'elle ne l'était en Angleterre. Alors peut-être qu'après on peut s'interroger sur le pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'en France on a fait beaucoup le choix historiquement, je me retourne vers l'économiste qui est à côté de moi, on a dans les années 70, début années 80 peut-être aussi, beaucoup privilégié la maîtrise des prix unitaires, alors des médicaments, des consultations, d'un certain nombre peut-être un peu moins sur les actes techniques, mais en tout cas sur les consultations et sur les médicaments. La compensation, entre guillemets, c'est la multiplication des prescriptions au travers d'efforts commerciaux, peut-être des industries pharmaceutiques. Et puis, il faut qu'on prenne aussi notre part de la discussion, nous enseignants, sur la formation de nos professionnels de santé. Donc, il y a. Voilà, mais en tout cas, là, on a un bon exemple, entre guillemets, d'une force de frappe commerciale totalement différente d'un pays à un autre vis-à-vis des prescripteurs. Là, ma maman, elle a quand même. Elle a 87 ans, hein, mais elle a 14 médicaments sur son ordonnance. Moi, on m'a appris sur les bancs de la faculté qu'au bout de 3 médicaments, on ne sait plus ce qu'on fait. Hein, parce qu'on ne sait plus comment ça s'illumine entre le rein et le foie. Voilà. Alors après, je laisserai peut-être la deuxième question plus particulièrement à mon collègue.
Quelques réactions. Sur l'espérance de vie, en effet, sans incapacité ou disons en bonne santé, dans le classement de l'OMS, ce qui ressortait, c'est que la France était très bonne en termes de moyenne. On devait être le deuxième ou troisième pays en termes d'espérance de vie en bonne santé en moyenne. Mais par contre, on était assez mal classé en termes d'inégalité. C'est-à-dire que autant en moyenne on est bon, autant les écarts entre ceux qui sont qui ont une espérance de vie en bonne santé forte, notamment les cadres supérieurs, et de l'autre côté les ouvriers non qualifiés, l'écart est plus important que dans d'autres pays européens. Donc tout ça pour dire que moyenne et écart parfois conduisent à des appréciations différentes.
On était au troisième rang pour les espérances de vie sans incapacité et au douzième rang pour les écarts de cette espérance de vie dans la population.
Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, sur l'aspect économique des choses, il ne faut pas oublier que la santé, c'est un secteur économique en tant que tel. C'est-à-dire que quand on raisonne en termes de keynésianisme, on parle de multiplicateur de dépenses. Donc c'est l'idée, quand vous injectez un euro dans le système économique, ensuite cet euro, c'est un revenu pour une autre personne qui, à son tour, va le dépenser, puis un revenu pour un autre, etc. C'est le principe du multiplicateur de dépenses. Alors, ce qui était intéressant dans la santé, pour faire fonctionner ce multiplicateur de dépenses, c'est que la santé, c'est d'abord, c'est une activité qui utilise intensément l'emploi. C'est-à-dire que pour un euro dépensé, donc vous générez de l'activité économique, mais vous générez beaucoup plus d'emplois que si vous c'est un euro en automobile ou c'est mécanisé ou c'est beaucoup une intensité capitalistique. Et puis d'autre part, c'est un secteur qui est assez faiblement importateur. Donc vous n'avez pas de fuite vers l'étranger. Et donc c'était un secteur qui économiquement était extrêmement intéressant pour faire fonctionner le multiplicateur. Moi, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Quand je compare les différentes catégories de dépenses publiques et sociales, je leur dis la santé, c'est absolument formidable. C'est un secteur qui a tous les avantages du point de vue keynésien. Le seul inconvénient après, c'est que c'est de la main d'œuvre qualifiée. Il faut trouver la main d'œuvre en face hein, pour répondre. Mais bon. Alors ça fonctionnait très bien. Le problème maintenant, et je reviens à la question de la mondialisation, c'est que tout ça, c'est un financement collectif, et ensuite, dans le cadre de la concurrence internationale, ça pose problème. Donc il y a ici, pendant très longtemps, ça a très bien fonctionné du point de vue du keynésianisme, du multiplicateur keynésien, c'est extrêmement intéressant économiquement. Aujourd'hui, on retombe sur ce débat de la mondialisation. La troisième remarque sur les firmes pharmaceutiques, alors moi, il y a un film que j'adore, vous l'aimez peut-être beaucoup moins que moi, c'est le film de Michael Moore, Sico. Et à l'intérieur de ce film, il y a une séquence extraordinaire sur la négociation de George Bush Jr. avec les firmes pharmaceutiques au moment où il va signer l'accord où le Medicare, qui est le système d'assurance maladie publique pour les retraités américains, il va signer l'accord. Jusqu'à présent, le Medicare ne remboursait pas du tout les médicaments. Et gros progrès, alors c'est en 2003 de mémoire, gros progrès, le Medicare va rembourser les médicaments. Mais ce remboursement, il va se faire avec une liberté totale du prix des médicaments. C'était une négociation entre les parlementaires américains et les firmes pharmaceutiques en disant bon, ok, on va rembourser les médicaments, mais ce ne sera pas comme en France avec des prix négociés avec l'État, il y aura une liberté totale de prix. Mais ce qui est intéressant dans la séquence, c'est qu'il met des petites étiquettes avec la somme qu'ont reçue chaque parlementaire de la part des firmes pharmaceutiques pour financer leur campagne électorale. Y compris d'ailleurs, après il parle d'Hillary Clinton, et il fait la même chose avec Hillary Clinton lors de la tentative de réforme Clinton. Mais ce qui est intéressant, alors ici, c'est que contrairement à la France, ici on sait les sommes qui sont versées aux États-Unis, puisque les lobbies ont une place officielle et que les sommes sont déclarées. En France, c'est beaucoup plus caché. Alors je ne dis pas que c'est mieux aux États-Unis qu'en France, hein, mais simplement, ça montre bien. Vous avez parlé du rôle des visiteurs médicaux, des contre-pouvoirs de revues médicales, mais sur cet aspect-là, sur les relations politiques firmes pharmaceutiques, il y aurait beaucoup à dire. Et également, Michael Moore insiste pour montrer les passerelles qu'il y a entre la politique et les firmes pharmaceutiques. Un tel qui était représentant devient ensuite directeur de tel hôpital ou de telle firme pharmaceutique, et inversement, etc. Donc il y a tout ça qui est montré dans cette séquence du film, et je trouve que c'est quelque chose qui serait à faire en France, d'une manière ou d'une autre, cette petite séquence. Je ne songeais pas forcément qu'à elle, mais ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, on peut mettre les dollars qui ont été versés directement pour les campagnes, et c'est des sommes absolument considérables. C'est en dizaines de milliers de dollars à chaque fois, pour chaque parlementaire concerné. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Oui, bonsoir. Merci en tout cas pour la qualité des exposés, parce qu'on apprend toujours plein de choses. Une réaction, une question, et deux questions. Vous nous avez parlé effectivement du poids du secteur de la santé dans le PIB, et puis là on vient d'aborder aussi l'effet sur la population active. Et donc est-ce qu'on a les parts de population active du système de santé dans les différents pays? Est-ce qu'on peut les comparer aussi? Donc ce serait quelque chose d'intéressant. Deuxième question. Est-ce que il se trouve que, alors qui n'est pas directement lié à l'exposé de ce soir, mais en même temps qui est intéressant, j'ai eu l'occasion de voir donc dans les mails qui circulent, dans les courriels qui circulent, un mail récent qui indique que le déficit de la sécurité sociale en fait n'est pas un déficit, qu'il suffit de si l'État donner effectivement les financements qu'il doit donc à la sécurité sociale, j'entends les taxes sur le tabac, les taxes sur l'impôt, enfin sur les assurances, etc., il n'y aurait pas de déficit de sécurité sociale. Donc est-ce que vous pouvez nous confirmer ça? Et puis une réaction quand même par rapport à la mondialisation et par rapport à ce que Gilles Kier dit. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit tellement lié à la mondialisation en tant que telle. Ce qui est sûr, c'est que les libéraux, depuis qu'ils ont... le pouvoir, je dirais, un peu partout, font la guerre contre les prélèvements sociaux, font la guerre contre les impôts. Et donc, du coup, c'est ça qui fait que nos systèmes sont complètement déséquilibrés. Mais je ne suis pas sûr. Alors, certes, c'est lié à la mondialisation, ils s'en servent, mais derrière, on pourrait, je pense, imaginer une mondialisation avec des systèmes de redistribution quand même qui ne seraient pas mis en cause comme ils le sont.
Merci pour ces questions. Alors, la première question, c'était sur la part de la population active, c'est-à-dire le système de santé, quelle est la part? Alors, moi, j'avais lu une donnée qui est estimée à 10% de la population active, la part de la population active qui travaille dans le système de santé. Donc j'ai retenu 10%. 10% du produit intérieur brut, 10% de la population active. Voilà, ça paraît plutôt assez équilibré. Hein. Voilà, voilà le chiffre que j'ai en tête, en tout cas, et que j'avais vu une fois dans une étude, qui date déjà maintenant de 5 ou 6 ans. Hein. Alors, le déficit de la sécurité sociale, 25 milliards, c'est ça, ce qui est prévu à peu près, 10, 12 milliards sur l'assurance maladie, quelque chose comme ça, à mettre en balance avec les 100 milliards de l'État. Un déficit, c'est toujours une balance entre recettes et dépenses. La question que vous posez, c'est est-ce qu'il y a des recettes qui ne sont pas reversées à la sécurité sociale. Il y en a quelques-unes, ça c'est sûr. Est-ce que ça permettrait de couvrir une partie du déficit de la sécurité sociale? Oui. Est-ce que ça permettrait de combler les 12 milliards? Alors, les études sont un peu divergentes, là, quand même, de mon point de vue. J'aurais tendance à dire de façon, oui, relativement importante. C'est-à-dire, effectivement, les exonérations de charges sociales, etc., qui sont décidées par l'État, etc., pèsent sur la sécurité sociale, ou sur une part, en tout cas, des recettes de la sécurité sociale, il me semble. Non ? Un petit peu ?
Et en fait, l'État doit en ce moment à peu près 1,5 milliard par an à la sécurité sociale. Le reste, qui n'est pas donné, qui transparaît dans les mails là, qui circulent, que j'ai pu voir, c'est des choses qui n'ont pas été votées en ces termes par l'Assemblée nationale et par le budget. C'est-à-dire que si, effectivement, l'Assemblée nationale décidait que l'ensemble des taxes sur l'alcool ou le tabac devait être reversé à la sécurité sociale, on aurait l'argent qui peut être décrit. Mais la loi est modifiée chaque année, et chaque année, l'Assemblée nationale vote des choses. Donc, il y a une toute petite partie qui n'est pas reversée et qui est due à la sécurité sociale. Celle-là, elle existe bien. C'est 1,5 milliard à peu près. Et le reste... le reste, et souvent on additionne, par exemple, ce que on additionne en disant l'État doit cette année, l'année dernière il n'a pas donné non plus, l'année d'avant, et donc on arrive à des sommes phénoménales que l'État devrait à la sécurité sociale. Mais c'est des sommes que l'État ne donnera jamais et ne peut pas donner, puisque légalement il n'est pas tenu de les donner. Et certaines exonérations de charges, par exemple, sont reversées à la sécurité sociale, et elles le sont réellement, et d'autres ne le sont pas parce que la loi prévoit qu'elles ne le soient pas. Donc il suffirait simplement de changer la loi, mais tant que la loi est comme elle est, on ne peut pas dire que l'État doit. C'est quand même un peu, je veux dire, ce mail là que je reçois régulièrement tous les 6 mois depuis 2 ou 3 ans, qui est toujours le même, hein, à quelque chose près. Bon, on l'avait transmis au président de la Caisse nationale, qui a lui-même répondu et donné des chiffres à peu près exacts sur ce que lui doit l'État de façon globale. Mais on ne peut pas préjuger d'un changement de la loi des années antérieures qui nous aurait amené à des recettes. Il faut savoir que le déficit de la sécurité sociale dans les 3 ou 4 dernières années est lié pour moitié à peu près à un excédent de dépenses et pour moitié à une absence de recettes du fait de l'augmentation des chiffres du chômage. C'est-à-dire que quand on fait les prévisions sur le budget, vu la dégradation de l'emploi global en France, il nous manque à peu près une partie des recettes qui représente à peu près la moitié du déficit. Et là, ces derniers temps, les dépenses sont presque tenues et c'est surtout les recettes prévisionnelles qui ne rentrent pas du fait de l'augmentation du chômage.
La part de ce qui n'est pas effectivement reversé, que devrait reverser l'État, est relativement à la fois importante et faible. En même temps, quand il y a effectivement des lois qui passent sur des exonérations, c'est des lois, et il n'y a pas de. C'est pas l'État qui doit. Après, l'État prend des décisions. C'est des choix politiques, quand même. Voilà. Donc ça c'est sur cet élément de déficit de la sécurité sociale. Il y a alors effectivement comme ça vient d'être rappelé, cet équilibre recettes-dépenses, du coup le déséquilibre il est lié à la fois sur une baisse des recettes ou sur des recettes insuffisantes entre guillemets, et à la fois alors pour des raisons de chômage et d'autres aspects, et à la fois sur une augmentation des dépenses qui sont ces dernières années, effectivement l'année dernière, notamment cette année, relativement contenu hein, par rapport à ce qu'on a pu observer avant. Dans les années 70, hein, les dépenses de santé, dans mes souvenirs, augmentaient de 10 à 15% par an. Début des années 2000, on est plutôt à 5%. Et là, on est à 2-3%. Donc, quand on dit maîtrise des dépenses de santé, c'est, je pense que dans l'idée de nos pouvoirs publics ou décideurs, c'est faire en sorte que l'augmentation des dépenses de santé ne dépasse pas l'augmentation de la croissance du produit intérieur brut, qu'il y ait une croissance des dépenses de santé qui soit parallèle à la croissance des dépenses de santé, du produit intérieur brut. C'est un peu ça qui est recherché, hein, je pense, par les pouvoirs publics. Voilà sur ce point.
Oui. Sur la part des professionnels de santé, j'ai pas les données ici, donc. Par contre, ce que je voudrais souligner, c'est au sein du personnel hospitalier, les RTT non prises et les heures supplémentaires non payées. Donc la part de l'emploi pourrait être beaucoup plus importante si, plutôt que cette procédure-là, on avait embauché du personnel correspondant. Donc, petite remarque là-dessus. Et je pense que ça ne doit pas avoir un effet négligeable hein, quand on calcule le nombre de professionnels. J'ai pas les chiffres ici, hein, mais vu les chiffres qui ont circulé hein, sur le nombre de jours de RTT des médecins hospitaliers actuellement accumulés, Gérard là aussi est beaucoup plus spécialiste que moi. Deuxième chose sur le non mais parce qu'on en a discuté ensemble et il a nuancé certaines choses par rapport à ça. Mais il n'y a pas que les médecins hospitaliers, hein, c'est valable pour d'autres catégories de personnel de santé. Sur le déficit de l'assurance maladie et de la sécurité sociale, vous avez tout évoqué, hein, les exonérations de cotisations sociales, le ralentissement de la croissance, le chômage. Ce que je veux rajouter par rapport à ça, c'est qu'on a un système qui est essentiellement financé sur des cotisations salariales. Or, les salaires étant comprimés au maximum, évidemment, du côté des recettes, ça se retrouve. Hein. Ce qui se passe en termes de dynamique de croissance des salaires a aussi de l'influence sur le financement de la sécurité sociale. Et puis sur la mondialisation, hein, je suis tout à fait d'accord avec tout, c'est simplement que je me suis mal exprimé, je parlais de mondialisation libérale. Voilà, je n'avais pas rajouté le terme parce que pour moi, c'était synonyme. Les deux étaient médiatiquement synonymes. Voilà, c'est tout.
Je suis désolé, on va être obligé d'arrêter parce qu'on s'est engagé auprès de l'espace Mendès France à ne pas prolonger nos conférences au-delà de 22h30. En tout cas, je remercie nos deux intervenants pour la qualité de leur exposé et tous ceux qui ont participé au débat. Je voudrais aussi vous signaler que les travaux de ASPES vont continuer en 2012. En tout cas, on a déjà mis au point le programme pour le premier semestre. Il y aura une thématique autour de l'éducation à la santé qui sera déclinée en deux volets. D'une part, les liens entre cohésion sociale, éducation à la santé et effet sur la santé, avec l'intervention d'un sociologue d'origine poitevine qui actuellement enseigne à Amiens, c'est Bertrand Gé qui a donné son accord. Et puis un deuxième thème, détecter précocement, pourquoi faire ? Est-ce que c'est pour exclure et stigmatiser ou est-ce que c'est pour corriger et compenser? Et là, l'éducation à la santé tient toute sa place. Et ça, c'est un débat qui nous concerne tout particulièrement dans le champ de la santé mentale des enfants, hein, puisque c'est une grande actualité. Donc voilà un petit peu. Alors, les thèmes vont s'affiner. Hein, c'est pour l'instant encore assez large. Mais en tout cas, je vous invite à continuer à venir à nos réunions. Et puis surtout, venez de plus en plus nombreux, parce que je crois qu'on a des intervenants qui viennent quelquefois de loin. Et c'est vrai que c'est gratifiant quand il y a plus de monde. Merci en tout cas et bonne soirée.
Merci à vous.
Merci.